Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous reprenons, en compagnie de Stéphane, notre étude sur l'Évangile de Marc. Bonjour Stéphane.
Bonjour Ian, c'est un plaisir d'être de retour pour étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 7, les 13 premiers versets.
Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?»« Hypocrites, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur. Car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous ? Si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister corban, c'est-à-dire offrande à Dieu », alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. »
Le Seigneur Jésus est de nouveau confronté aux pharisiens, mais cette fois-ci, il attaque à propos des traditions religieuses.
En effet, les pharisiens se plaignent que les disciples de Jésus ne respectent pas les traditions judaïques édictées par les rabbins. Indirectement, bien sûr, ils attaquent le Seigneur. L'idée est que si ses disciples ne respectent pas ces traditions, ça veut dire que leur maître, Jésus, n'est pas un authentique rabbin.
Et les traditions dont ils parlent semblent très lourdes et ennuyeuses.
Oui, il faut essayer de se remettre un peu dans le contexte de l'époque et comprendre comment ces pharisiens voyaient les choses. L'idée, c'est qu'à l'origine, puisqu'Israël était un peuple saint et choisi par Dieu, il fallait que les Israélites se comportent d'une manière digne de leur élection. Toute leur conduite devait donc être sainte et différente de celle des non-juifs. Cette sainteté se traduisait ou elle était représentée par la purification rituelle. C'est pourquoi ces rabbins avaient développé toute une série de purifications rituelles à propos de la vie quotidienne. Ils voulaient constamment se rappeler la sainteté de Dieu et être rituellement purs dans chaque détail de leur vie.
Il y a en effet quelque chose de vrai dans cette idée. L'apôtre Paul aussi nous invite à être saints dans toute notre conduite.
C'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous devons nous efforcer d'être un exemple pour le monde par la sainteté et la pureté de notre conduite. Les pharisiens avaient bien compris que servir le Seigneur implique tous les aspects de la vie. Mais pour en revenir à notre texte, le problème de ces pharisiens était qu'ils ne s'occupaient que de l'apparence extérieure et qu'ils ne vivaient pas de vraie piété. C'est exactement ce que Jésus va leur reprocher.
Et comment le Seigneur leur répond-il?
Le Seigneur répond essentiellement deux choses. L'une est que la pureté extérieure est une illusion, car nous ne pouvons jamais être purs intérieurement. L'autre est que la vraie piété que Jésus désire, c'est la piété intérieure, celle du cœur.
La réponse de Jésus est très sévère. Il les accuse d'être hypocrites, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas sincères, qui dissimulent leurs vrais sentiments.
Oui, en effet, et il cite même Ésaïe 29, qui est une condamnation d'Israël et de toute hypocrisie religieuse. Ésaïe dit en substance « Ces gens semblent religieux, mais en fait leur cœur est loin de moi ». Et Jésus reprend ses paroles en dénonçant l'hypocrisie de ses rabbins. Et il prend pour exemple ces dons promis à Dieu ou corban.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un corban?
Eh bien, le corban était la promesse faite à Dieu, par testament en général, de lui donner ou de lui consacrer quelque chose qui lui reviendrait au moment de la mort du testateur. Ça pouvait être de l'argent ou une maison, et la personne ayant ainsi consacré un bien pouvait continuer à utiliser ce bien pendant toute sa vie. On voit facilement alors comment cette tradition pouvait permettre à des fils sans scrupules d'échapper à leur devoir d'aider leurs parents. Si par exemple leurs parents dans le besoin leur demandaient de l'argent ou de l'aide, ils pouvaient répondre « Désolé, je ne peux pas t'aider parce que c'est corban, c'est promis au Seigneur ». Ainsi, avec cette tradition inventée par les hommes, ils négligeaient leurs parents, alors que le Seigneur avait clairement commandé « Honore ton père et ta mère ». Le Seigneur préfère que nous aidions nos parents dans le besoin, plutôt que nous lui promettions de lui donner quelque chose.
Oui, on voit bien là toute leur hypocrisie. Mais quelle leçon pouvons-nous tirer de ce passage?
La leçon fondamentale est que nous devons absolument rejeter les traditions religieuses humaines quand elles contredisent la parole de Dieu. Les traditions religieuses commencent souvent avec de bonnes intentions, mais elles finissent toujours par remplacer la parole de Dieu. Beaucoup de gens tiennent à leurs traditions religieuses et à leurs rituels parce que ça les rassure. Ils pensent qu'en suivant certains rites, ils seront en règle avec Dieu. Le seul moyen d'être en règle avec Dieu est de venir à son Fils, le Seigneur Jésus, en toute humilité. C'est croire qu'il est Dieu fait homme, mort pour nos péchés, et ressuscité, et nous repentir sincèrement de nos péchés pour le suivre. Voilà ce qui compte. En effet, les traditions religieuses humaines imposent de lourds fardeaux aux hommes, sans pour autant leur donner la paix que Dieu seul peut procurer. Certaines traditions religieuses vont jusqu'à interdire des choses qui sont bonnes et créées par Dieu. Combien de souffrances ces traditions n'ont-elles pas infligées à beaucoup d'hommes? Alors qu'au contraire, la parole de Dieu libère les gens de toute tradition religieuse. Donc, dans nos églises, nous devons être vigilants, car il est facile de créer des rites et des traditions auxquelles nous devenons attachés. Nous devons faire attention aussi de ne pas imposer des traditions qui n'existent pas dans la Bible. Nous ferions bien d'examiner ce que nous faisons à la lumière de la Bible pour nous assurer si oui ou non c'est bien fondé. En conclusion, écoutons avant tout la parole de Dieu et refusons toute tradition religieuse humaine qui se trouve en contradiction avec elle.
Stéphane sera de retour lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui pour la suite de cette série sur l'Évangile de Marc. Mais sans tarder davantage, nous passons à notre méditation biblique. Après la lecture du psaume 43, Antoine nous fera part de ses réflexions.
Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple infidèle. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu, et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. »
L'auteur de ce psaume n'a pas peur d'exprimer à Dieu ses doutes et ses sentiments. Ce croyant a entendu dire que Dieu est une forteresse, mais il a l'impression que son expérience ne reflète pas cette vérité. Une forteresse est un lieu sûr, un lieu où l'on se sent à l'abri et en sécurité. Cependant, ce croyant ne se sentait ni en sécurité, ni à l'abri de ses ennemis. Pourquoi ? Ce croyant voulait rester fidèle à Dieu dans sa piété et dans son comportement. Mais il constate qu'autour de lui, la plupart des gens sont infidèles et glissent vers des conduites mauvaises. Ce croyant est triste, fatigué et abattu. Il a du mal à supporter une société qui s'oppose à sa foi et qui menace son bien-être. De plus, il se demande ce que Dieu fait dans tout cela. Il a l'impression que Dieu ne s'intéresse pas à lui et qu'il ne fait rien pour venir à son secours. Ce psaume fut écrit il y a 3000 ans, mais malheureusement le monde n'a pas beaucoup changé. Les propos de l'auteur du psaume reflètent les sentiments et les pensées qui peuvent jaillir de nos propres cœurs. Vous pouvez, en tant que croyant, vivre la pauvreté ou l'injustice. Vous pouvez être victime de la violence ou des mensonges. Vous pouvez vivre tant de choses qui vous attristent et vous fatiguent, et toutes ces expériences peuvent générer doutes et interrogations. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les propos du psalmiste peuvent être un encouragement pour nous. Un encouragement d'abord à être franc et honnête avec Dieu dans nos prières. Malgré ses sentiments et ses pensées désorientées, ce croyant savait qu'il pouvait s'exprimer librement devant Dieu. De même, nous pouvons nous approcher de Dieu avec cette même confiance de pouvoir lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Ensuite, malgré ses doutes et ses interrogations, l'auteur du psaume reste convaincu que les réponses à ses énigmes se trouveront en Dieu. Je voudrais vous laisser une leçon de la plus haute importance. Nos doutes et nos interrogations peuvent nous éloigner de Dieu. Ne le permettez pas. Suivons l'exemple du psalmiste qui courait plutôt vers Dieu pour tout lui dire. Il s'accrochait à Dieu et mettait son espérance en lui et non dans les réponses trompeuses de ce monde.
Merci Antoine pour ces rappels encourageants. Et merci chers amis auditeurs pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous dès notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui pour la suite de nos deux séries. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.